serais pas surpris de me voir jouer avec deux écrans. Je pense que la gouvernance d'Internet commence par la gouvernance des ordinateurs, de plusieurs dispositifs. Il y a simplement des données confidentielles que je ne voudrais pas que vous voyez, donc protection des données oblige. Bonjour à toutes et à tous. Ma communication de ce matin vise simplement à apporter un éclairage sur les enjeux liés donc à la gouvernance de l'Internet, en tenant compte bien évidemment des négociations en cours et des débats aussi controversés qu'il y a sur l'échiquier international. En fait, en effet, il a fallu simplement 3 décennies, hein, il faut le dire, pour que l'Internet devienne vraiment un enjeu majeur des relations internationales et un puissant outil quand même au service de la mondialisation. Et cela, bien évidemment, en 2014, on se retrouve un peu à une année charnière, on va dire, à un tournant décisif. Et cela, comme en témoigne, là, vous voyez, il y a plein d'événements dans l'agenda international de la gouvernance de l'Internet. Ça commence par la réunion de l'ICANN à Singapour, je pense que c'est la semaine prochaine, là. Et puis après, le sommet mondial, là, le Net mondial, qui aura lieu à Sao Paulo, à l'initiative de la présidente brésilienne. Et puis, bien évidemment, d'autres événements aussi très attendus, notamment le fameux forum sur la gouvernance d'Internet à Istanbul, qui va être aussi certainement décisif sur les orientations et les modalités de fonctionnement de cet outil-là, de ce forum-là. Donc, cela témoigne vraiment donc d'un intérêt accru sur ces questions-là. Et il y a de quoi, sachant que ce qui rend vraiment complexe la gouvernance de l'Internet en soi, vous en doutez très bien, c'est justement son écosystème vraiment multi-acteur. Là, vous voyez sur ces schémas proposés par l'Internet Society un modèle qui essaie de regrouper justement toutes les parties, toutes les forces en présence. Bien évidemment, vous avez, ça part des groupes s'occupant des normes techniques, hein, comme l'IETF, le W3C, aux registrats internationaux, aux registrats régionaux, et aussi, bien évidemment, à toutes les entreprises, là, les fameuses GAFA, comme on les appelle communément, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui justement sont des puissants acteurs économiques, des géants du net, qui essaient quand même d'imposer aussi, on va dire, leurs principes en fonction de leurs intérêts. Et donc c'est de la divergence de tous ces intérêts quand même, vu que ces acteurs sont quand même un peu hétéroclites là, et que chacun a des domaines, dans des domaines bien spécifiques, un rôle important à jouer. Il en va clairement qu'il serait essentiel de veiller sans cesse à maintenir un équilibre au niveau de tous ces acteurs-là. Et c'est ce qui n'est bien évidemment pas évident parce que, étant donné l'existence de ces conflits d'intérêts, on va dire les rapports de force vraiment déséquilibrés entre acteurs par rapport au débat en cours actuellement, montrent bien qu'il y a deux logiques qui s'opposent. Hein. Il y a l'une qui privilégie justement la gouvernance organisée autour des souverainetés nationales, donc avec les États qui s'affirment et qui veulent vraiment avoir la même mise. Et puis, bien évidemment, de notre côté aussi, une autre vision qui préconise une approche de gouvernance justement multi-acteurs en faisant la place, une large place aux acteurs de la société civile, des sociétés civiles. Alors, justement, on va passer aux grands enjeux actuels. Il faut dire qu'au cours de ces dernières années, les travaux réalisés dans le cadre de ma thèse de doctorat m'ont quand même amené à m'intéresser aux politiques internationales de lutte contre la fracture numérique, Nord-Sud. Et ce faisant, j'ai pu être impliqué dans un processus de recherche à action qui m'a permis d'accéder quand même à un terrain privilégié où j'ai pu côtoyer justement un certain nombre des acteurs que j'ai mentionnés tantôt, que ce soit des représentants de gouvernement, des membres de la société civile internationale, des industriels et des experts techniques aussi, qui étaient concernés au premier plan par ces questions-là. Et avec une méthode d'observation participante, on va dire un peu, puisque j'ai pris part quand même à pas mal de forums sur la gouvernance d'Internet, tout ça. Donc ça m'a permis, en marge de tous les entretiens qualitatifs que j'ai pu faire avec, on va dire, une bonne trentaine d'acteurs quand même sur la question, d'identifier justement ces enjeux clés là, qui sont des enjeux actuels et qui sont toujours justement, qui vont alimenter les débats à venir dans les différents sommets, événements qui vont mobiliser les différentes parties prenantes. Donc en premier lieu, j'identifie bien évidemment la neutralité, la question de la neutralité du net. Ensuite, il y a la question aussi de la protection des données des suivants, hein, et donc la surveillance, là, le fameux Big Brother où on a des yeux sur nous, là, partout où on passe, on est traqué. Et puis la question de la souveraineté numérique, qui est une question aussi très sensible quand même. et enfin la diffusion des contenus culturels. Juste un mot sur chacun de ces grands enjeux là. Il faut dire qu'au niveau de la neutralité du net, vous savez, l'architecture technique de l'internet s'appuie vraiment sur son principe de base, hein, qui est le fameux système end-to-end là, où on essaie vraiment de s'appuyer sur l'organisation en toile d'araignée pour ne pas tenir compte au niveau de, on va dire du. Il y a une claire séparation, tout simplement, entre les fonctions de transport et les fonctions de traitement des données. Et donc, le débat qui se pose ici, c'est vraiment de savoir, mais qui paie quoi ? Parce que d'une part, vous avez les fournisseurs d'accès qui soulignent, bien évidemment, l'encombrement et la saturation des réseaux, des infrastructures. Et donc, ils évoquent des coûts de maintenance et d'expansion qui sont quand même assez lourds. Et en face, vous avez tous les fournisseurs, plutôt de contenu, justement, qui, eux, une fois encore, hein, c'est Google, vous les savez, vous les connaissez, YouTube et autres, qui utilisent quand même, ce sont des gros consommateurs de bande passante et qui quand même défendent toujours au nom de leurs intérêts économiques ce fameux principe de neutralité là, parce qu'ils ne veulent pas simplement qu'on aille regarder dans ce qu'ils envoient dans les tuyaux, on va dire, hein, pour faire un peu schématique là. Et donc la question vraiment qu'on doit se poser, c'est de se dire, mais où doit-on prélever une partie des coûts sur les abonnements des utilisateurs finaux? Ou bien est-ce qu'il faut que ces fournisseurs de contenu très gourmands, justement, en bande passante, est-ce que c'est à eux de prendre les responsabilités et de payer pour ça, ou la responsabilité remonterait-il plutôt simplement aux fournisseurs d'accès eux-mêmes? Donc ça, c'est des questions qui, même si on a des marges de manœuvre en termes de légalisation, il faudrait vraiment se demander si le principe de la neutralité du net, au-delà d'être un principe technique, devrait justement faire l'objet d'une législation pure et dure. Alors, en ce qui concerne la protection des données, vous savez, depuis les révélations cet été, l'été dernier, sur l'emploi des programmes mondiaux d'espionnage de la NSA, la question est vraiment revenue au devant de la scène et elle se pose d'autant avec acuité qu'on peut se dire, mais qu'advient-il réellement de toutes ces dizaines de milliards de données qui collectent chaque jour, justement, les géants du net? Et donc, ces géants du net qui sont pour la plupart des entreprises privées nord-américaines et qui pourraient être supposées avoir des ententes, des alliances avec justement les États, avec le gouvernement, histoire de pouvoir réutiliser ces données-là à des fins peut-être sécuritaires ou répressives. Et donc, on sait que par exemple, en évoquant simplement la lutte contre le cyberterrorisme ou bien des attaques, des cyberattaques, les États n'hésitent pas justement à conclure ces fameuses alliances-là pour accéder à des données sans forcément même consulter les consommateurs, les utilisateurs, les internautes. Donc il importerait vraiment à ce niveau aussi de porter une attention particulière quand même et de sensibiliser sur les abus liés à la violation de la vie privée, des données personnelles collectées en ligne. Cette tâche ne sera pas aisée, hein, on le sait, et par contre on pourra toujours bénéficier des zones de flou juridique qui existent encore sur cette question-là. En ce qui concerne maintenant la souveraineté numérique, le troisième enjeu, donc l'avant-dernier, il faut dire que la défense de la souveraineté numérique, elle est vraiment directement sous-jacente, hein, à la question de la surveillance et de la censure sur Internet. Et il devient de plus en plus difficile pour les États d'exercer leur souveraineté nationale dans un territoire virtuel qui s'affranchit quand même de toutes les frontières géographiques. Et là aussi, on sait que depuis l'affaire Wikileaks, les États sont beaucoup plus soucieux de la maîtrise et du contrôle de ces flux de communication qui tentent de les échapper. Donc c'est quand même des données stratégiques. Et aujourd'hui, la souveraineté numérique constitue clairement l'expression d'une ferme volonté de reprise en main étatique du contrôle de l'Internet, mais à une échelle nationale. Donc en l'absence ici, justement, d'un traité international de régulation du cyberespace, on peut être amené à se demander, mais quelles doivent être les limites de cette intention de reprise en main qui peut conduire à des dérives en termes de captation, on va dire, avec le morcellement d'Internet. Et puis, en d'autres termes, la question aussi qu'on peut vraiment se poser, c'est de savoir si les gouvernements pourraient s'auto-censurer et jusqu'où pourrait aller cette auto-censure. Est-ce qu'il devait avoir des concessions de régulation au niveau international, on va dire supra-étatique, qui pourraient être envisagées sans pour autant tomber dans le domaine de l'ingérence, on va dire. Donc ça, c'est quand même des questions d'acuité. Et puis, le tout dernier enjeu qui me plaît de vous partager, ben, c'est celui de la diffusion des contenus culturels sur Internet. Permettez-moi d'en faire l'économie, de ne pas vraiment trop insister là-dessus, parce que vous le voyez, hein, depuis le début, c'est quand même un filigrane là dans tous nos débats, dans toutes nos discussions, et mes prédécesseurs ont abordé des aspects là-dessus. Je vais simplement peut-être dire que, bien évidemment, on a parlé de livres, de films, des disques, de CD pour l'industrie de la musique. Et effectivement, même si tous les corollaires de coûts liés à la reproduction, à la question des droits d'auteur et à la propriété intellectuelle restent quand même importants à prendre en compte, on ne va pas oublier que ça devrait passer, si on veut vraiment faire bouger les lignes, par revoir peut-être réviser peut-être certains des accords internationaux relatifs justement à ces problématiques-là. En définitive, et c'est ma conclusion, on va dire quelles sont les perspectives envisageables, comment la gouvernance sur Internet, la gouvernance relative justement au contenu, pourrait évoluer au cours des prochaines années. Je pense que l'un des premiers scénarios serait certainement l'internationalisation des processus décisionnels de l'ICANN, l'organisation qui est en charge le nommage et l'adressage des adresses Internet. Et donc là, on risque de passer certainement d'une société californienne vers une société internationale. Son président récemment dans les médias annonçait peut-être que le siège pourrait être basé à Genève, et je pense que c'est pour faire un peu écho à la remise en cause, à la fronde qu'il y a actuellement un peu, que ce soit au niveau de la Commission européenne mais aussi au niveau des autres puissances qui justement remettent en cause cette hégémonie, cette mainmise américaine depuis 98. Et ces questions vont bien évidemment être débattues de façon peut-être houleuse au niveau du fameux sommet net mondial là, qui va se tenir en avril prochain. Et c'est quand même, il faut le dire, là, l'une des premières conférences sur la gouvernance mondiale d'Internet qui n'est pas du tout organisée par l'ONU. Et donc, je pense qu'on pourrait éventuellement aller vers un modèle global de gouvernance qui s'inspire vraiment des normes techniques et des principes d'ouverture de l'architecture de l'Internet là. Et puis, ben, la troisième question d'intérêt à surveiller pour les mois, les années à venir, là, ce serait effectivement l'évolution aussi du cadre du forum de gouvernance d'Internet, qui est quand même un espace d'intermédiation, qui certes, depuis le SMSI qu'il a institué, a quand même tenu pas mal de rencontres, de réunions avec différentes parties prenantes. On va dire qu'il y a eu quand même pas mal de débats stériles, dans le sens où, même si les apports sont très légitimes à la maturation de la réflexion sur la gouvernance d'Internet, on reste néanmoins très limité au niveau de cet espace-là, dans le fait où ils ne sont pas autorisés justement à faire des recommandations, et du coup, influer sur le changement des règles du jeu, c'est quand même vraiment très limité là en termes de retombées. Voilà, il y a beaucoup de questions qui restent bien évidemment en suspens, mais vous savez, cette communication n'avait pas du tout la prétention à anticiper toutes les évolutions à venir concernant les contours possibles de la gouvernance, d'une gouvernance internationale d'Internet. Mais c'est quand même quelque chose à laquelle je vais m'atteler, parce que ça constitue le point de départ bien évidemment de plusieurs réflexions à approfondir dans le cadre de ma recherche postdoctorale. Je vous remercie de votre attention.